La carte Visa Orange Money, retrait et paiement dans toute la zone UMOA, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous propose l'émission Appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
François Mazet.
Bonjour à tous, surtout à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue, cet appel sur l'actualité, c'est votre émission chaque matin pour savoir et comprendre le monde. Décryptage, information, explication et débat, riche menu aujourd'hui après qu'on a vu une fumée blanche dans le ciel de Kinshasa. Après des mois d'attente et de tractations, le gouvernement de RDC a été formé et annoncé hier à l'aube. On va y revenir tout de suite avec des questions d'auditeurs et dans la deuxième partie, dans une demi-heure, dans le débat, nous attendons vos réactions, vos commentaires, compositions, place des femmes, renouvellement des têtes, rapport de force entre les alliés de Félix Tshisekedi et ceux de Joseph Kabila. Vous nous dites ce que vous en pensez, le standard est ouvert. 33 9 693 693 70, vos messages sur la page Facebook de l'émission et par WhatsApp 33 6 89 28 53 64. Et pour commencer, des questions d'ailleurs sur cette nouvelle équipe de 66 membres mise en place hier, annoncée par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Question auxquelles va répondre Florence Maurice. Bonjour Florence.
Bonjour, bonjour à tous.
Envoyé spécial de RFI à Kinshasa, la première question pour vous Florence, elle nous vient de Trésor, fidèle auditeur de Kisangani. Bonjour Trésor.
Bonjour Monsieur François Mazet.
Quelle est votre question Trésor?
7 mois après l'investiture de Félix Tshisekedi, le gouvernement est enfin dévoilé. Au sein de ce gouvernement est composé majoritairement des personnalités issues du cadre des Front commun pour le Congo, FCC en sigle. Quelle sera la marge de manœuvre du président Félix Tshisekedi?
Alors Florence, on connaissait la clé de répartition des postes dans ce gouvernement. 2/3, 1/3, grosso modo, entre le FCC et le CASH. Le mot de gouvernement de cohabitation a été utilisé. Alors comment le chef de l'État et le gouvernement vont-ils travailler ensemble?
Oui, alors c'est vrai que le Premier ministre a utilisé hier le terme de cohabitation et pourtant sur le papier il s'agit plutôt d'une coalition. On est dans un régime dit semi-présidentiel, donc le chef du gouvernement est issu de la majorité parlementaire qui est restée aux mains de Joseph Kabila. À ce titre, le Premier ministre aurait d'ailleurs pu former un gouvernement entièrement de sa couleur politique, le FCC, mais les deux forces ont choisi de négocier pour arriver à la répartition dont vous avez parlé François, ce qui a quand même permis au président Tshisekedi de récupérer une part non négligeable des postes et quelques postes clés.
De tiers à tiers, Florence.
Félix Tshisekedi a quand même, Alors bon, Félix Tshisekedi a quand même obtenu la moitié des postes régaliens. Il hérite de l'intérieur, des affaires étrangères, même si, il faut le noter, ce poste a été scindé en deux avec un poste désormais de ministre de la coopération et de l'intégration régionale confié au contraire au FCC, ce qui vide un peu de sa substance, le poste de chef de la diplomatie. Il faudra voir comment ces deux ministères vont se partager la tâche. Félix Tshisekedi laisse la défense, mais avec l'idée qu'il reste le chef des armées au titre de la Constitution et qu'il aura donc son mot à dire. Là aussi, dans une configuration un peu d'équilibriste, c'est le temps qui dira quel rapport de force pourra s'installer entre les deux. Mais si on regarde dans le détail, c'est vrai que certains leviers importants pour permettre au chef de l'État d'impulser un vrai changement, un virage, lui échappent. Je pense notamment au ministère de la Justice, un sujet de blocage pendant plusieurs mois. C'est Joseph Kabila qui a remporté la bataille. Sans doute avec l'idée d'éviter d'avoir à affronter une chasse aux sorcières, des crimes commis sous son régime. Et c'est surtout dans le domaine économique, François, que le déséquilibre est le plus flagrant. L'immense majorité des ministères productifs, les mines, principale source de recettes pour le budget de l'État, restent dans le giron de Joseph Kabila, mais aussi le ministère du portefeuille, les entreprises publiques et celui des finances par qui passent tous les arbitrages financiers, des ministères clés donc dans la gestion des ressources et cela fait craindre à la société civile de devoir perdurer dans ce domaine les méthodes de l'ère Kabila. Le nouveau président a promis d'assainir les finances publiques, c'est d'ailleurs indispensable s'il veut avoir une marge de manœuvre pour répondre aux immenses défis sociaux qu'il a devant lui. Et l'on sait que s'il n'a pas la main sur ces grands arbitrages, s'il n'arrive pas à accroître les recettes de l'État en luttant contre la corruption, eh bien il aura du mal. Alors dans son entourage, on fait valoir falloir qu'il y a d'autres leviers économiques hors du gouvernement, notamment on évoque la Banque centrale qui pourrait changer de main. Félix Tshisekedi pourrait essayer d'y placer l'un des siens.
Oui, alors forcément, Florence, on se demande si cette équipe ne veut pas être difficile à manœuvrer.
Oui, alors, d'autant que, par exemple, il y a également de nombreux postes de vice-ministres qui ont été créés et qui sont souvent d'un bord opposés à celui de ministre titulaire. Bref, cette machine gouvernementale va être dure à manœuvrer. On va sans doute au-devant de lenteurs et de blocages. Et il est bien possible que Félix Tshisekedi et Joseph Kabila soient régulièrement appelés à la rescousse pour arbitrer. Ce qui veut dire, en fait, que beaucoup de choses dépendront peut-être plus que du gouvernement, directement du rapport de force entre les deux leaders de coalition. Alors, Félix Tshisekedi osera-t-il taper du poing sur la table quand nécessaire, hein? Les tractations longues ont révélé beaucoup de méfiance entre les deux partenaires. Félix Tshisekedi, c'est vrai, a réussi à écarter certaines personnalités, hein, dont il ne voulait pas, aux finances notamment. Mais on a vu aussi ces derniers mois comment il a parfois plié sous la pression, notamment lorsqu'il y a eu une crise au Sénat. Il a reculé. Donc, maintenant que ce gouvernement est en place, est-ce qu'il va prendre plus de liberté? C'est toute la question.
Alors, d'autres questions pour vous, Florence, c'est celle posée par Alfred à Bukavu. Alfred qui nous entend, mais la ligne n'est pas très bonne. Donc, je vais relayer ces questions. C'est une question sur les absents. Comment est-ce qu'on peut expliquer, Florence, que les caciques de l'ère Kabila soient mis de côté? C'était presque l'essentiel pour Félix Tshisekedi, absolument donner l'image du renouvellement en écartant les piliers les plus visibles des années Kabila.
Oui, alors les noms hein, qui reviennent souvent, on parle de l'absence d'Emmanuel Ramazani Shadary, hein, je crois que c'était la question d'Alfred et également Évariste Beauchamp. Bon, ces noms, en fait, il était assez peu probable qu'ils entrent dans le gouvernement. Hein. Emmanuel Ramazani Shadary a échoué à la présidentielle et son nom reste associé à cette défaite. Il avait été choisi par Joseph Kabila comme dauphin et sa présence, voilà, vous l'avez dit, au gouvernement aurait été un symbole trop évident de la continuité de l'ancien régime. On peut dire la même chose d'Évariste Beauchamp. À un moment, la rumeur a couru hein, que l'ex-patron des renseignements Kalev, qui faisait pression pour entrer au gouvernement, pourrait être sur la liste, mais en réalité, il n'en a jamais vraiment été question.
Florence Maurice, si on y regarde de plus près, est-ce que l'absence de ces personnalités est pour autant synonyme de renouvellement ?
Bon, alors il y a quand même d'abord quelques rescapés hein, de l'ancienne équipe, des ministres qui étaient dans le gouvernement en sortant. Et surtout, ils ont souvent été placés à des postes clés. Et puis, on s'est recentré autour du PPRD, hein, le parti de Joseph Kabila, très largement représenté. On sait que sa coalition, le FCC, compte des dizaines de partis. On a intégré, en fait, de part et d'autre, des piliers des partis, des représentants de la Ligue des Jeunes, réputés pour leur loyauté. Et au final, même si beaucoup de caciques ne sont pas présents, en fait, ils sont indirectement représentés. Donc, le renouvellement n'est pas aussi profond qu'il en a l'air. Et au moins, du côté du Front commun, ce sont les mêmes formations politiques qui seront aux affaires, ce qui fait redouter aussi bien à la société civile qu'à l'opposition que ces nouveaux membres de gouvernement utilisent finalement les mêmes méthodes de leurs aînés, même si le Premier ministre, hein, dans la nuit de lundi à mardi, a assuré que c'était bien un gouvernement de changement.
Un autre auditeur avec des questions pour vous, Florence Maurice, c'est Judicaël qui est à Kinshasa. Bonjour Judicaël.
Oui, bonjour François, bonjour à Florence.
Allez-y, nous vous écoutons.
Voilà, le fait qu'il y ait 75% des ministres n'aient jamais été membres du gouvernement auparavant, n'est-il pas un risque pour la politique congolaise?
Oui, Florence, c'est la conséquence de ce qu'on disait, hein, en choisissant le renouvellement, on risque aussi peut-être un manque d'expérience?
Oui, alors c'est sûr qu'il risque d'y avoir une période d'adaptation, hein, des lenteurs. Mais le risque, c'est peut-être surtout que le processus de décision échappe finalement en partie au gouvernement. C'est ce que pense en tout cas le chercheur Bob Kabamba. Vous l'avez peut-être entendu hein, d'ailleurs hier sur RFI. Selon lui, ce choix de personnalité au profil davantage de technocrate a été fait délibérément pour éviter une véritable impulsion politique au sein sein du gouvernement et faire en sorte que le processus de décision, donc je le disais, lui échappe et que la plupart des grandes questions continuent d'être gérées directement au niveau des chefs de file des deux coalitions, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, qui conserveraient ainsi son influence. Alors en théorie, les deux hommes se sont mis d'accord sur les grandes lignes, y compris sur leur programme, mais s'il y a blocage au niveau du fonctionnement des institutions, la constitution congolaise prévoit que les deux têtes de l'exécutif, Félix Tshisekedi et le Premier ministre, doivent collaborer pour conduire les affaires de l'État.
Judy Kell, vous avez une autre question pour Florence.
Oui, bien sûr. Pourquoi le parti APDC a des modestes battus de Kouébo n'est-il pas représenté alors qu'il représente une quarantaine de députés à l'Assemblée nationale?
Oui, et il réclamait 4 portefeuilles, dont un poste de vice-premier ministre. Est-ce qu'il est puni, Bahati Lukwebo, Florence?
Alors bon, son absence est le résultat du conflit qu'il a opposé à Joseph Kabila. Modeste Bahati Lukwebo avait décidé de maintenir sa candidature au perchoir du Sénat face au candidat choisi, désigné par l'ex-président Alexis Tambwe, qui a finalement été élu. Mais cela ne lui a pas été pardonné. Il a dû quitter le FCC, même si une partie de ses députés sont restés dans le giron du Front commun. Et à ce moment-là, alors qu'il avait participé aux négociations sur la répartition des postes, pratiquement jusqu'au bout, il a été écarté de l'accord conclu fin juillet. Alors lui, il conteste la légalité de cette décision. Son argument, c'est de dire que son groupe parlementaire à l'Assemblée est répertorié dans la majorité parlementaire, qu'il soit du FCC ou non, et qu'à ce titre, il aurait dû être représenté proportionnellement à son poids. La question qui se pose maintenant, c'est de savoir ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va opter pour une opposition frontale ou peut-être patienter en espérant une nomination à la tête d'une autre institution.
Dernière question, Florence, ce gouvernement Ilunga, quelles vont être ses priorités les plus immédiates ?
Alors elles sont nombreuses. Il y a d'abord un préalable, l'investiture devant l'Assemblée nationale. Elle doit avoir lieu avant le 7 septembre, date de fin de la session extraordinaire. En théorie, ça posera pas de difficulté vu que la coalition de Joseph Kabila y est largement majoritaire. Ensuite, une urgence, c'est bien le budget de l'État. Depuis des mois, les affaires sont gérées directement au niveau de la présidence. Il faut clarifier tout ça, traduire les priorités de Félix Tshisekedi dans ce budget. C'est sur l'agenda de la entrée parlementaire. Et puis il y a bien sûr l'urgence sécuritaire. Félix Tshisekedi est attendu sur sa capacité à combattre les groupes armés dans l'est du pays. Il y a aussi Ebola qui continue de sévir. Et puis une priorité sur le volet social, la gratuité à l'école primaire. Félix Tshisekedi en a fait une promesse. Or la rentrée, c'est dans quelques jours et un grand flou règne encore sur la façon dont tout cela va pouvoir ou non être mis en œuvre.
Merci Florence Maurice d'avoir été en ligne de Kinshasa où il est 9h23 pour ces explications très, très détaillées pour nos auditeurs. Trésor à Kisangani, Alfred à Bukavu, Judy Kell à Kinshasa et à tous nos auditeurs congolais qui pourront réagir à la formation de ce gouvernement dans un gros quart d'heure maintenant. Bonjour Ernest.
Bonjour François.
Une autre question, un autre sujet. Et nous avons reçu de nombreuses questions sur cette problématique-là. L'Amazonie avec ses multiples feux qui détruisent le poumon vert de la planète. Ernest, vous êtes auditeur de RFI à Paris. Quelles sont vos questions sur ce sujet?
Oui, bonjour aussi à tous les auditeurs de la Radio du Monde. Et depuis plusieurs jours, la forêt amazonienne est en proie à de violents incendies. Et surtout ces derniers jours, on assiste à un important départ de feu. François, mes questions sont les suivantes. Qu'est-ce qui est à la base de ces départs de feu et comment expliquer un aussi grand nombre de départs de feu?
Eh bien, c'est une question que je vais relayer à Maria Amélia Alencar. Bonjour.
Bonjour.
Du service Brésil de RFI. Depuis le début de l'année, je crois, il y a eu 80 000 feux au Brésil, la moitié en Amazonie. On voit la situation actuelle. Alors, pourquoi cette recrudescence de départs de feu?
Il y a deux aspects. Chaque année, le nombre d'incendies et de parcelles déchiffrées augmente à partir de juillet, fin de la saison des pluies et début de la saison sèche. C'est la saison des queimadas, comme on appelle. C'est des brûlis, technique ancienne, qui consiste à mettre à feu des zones déjà travaillées par l'homme pour l'entretien des pâturages et où on transforme des forêts en espaces cultivables. Les départs de feu ont augmenté beaucoup cette année, en partie à cause d'une très importante sécheresse dans la région, mais surtout à cause des prises de position du nouveau président Jair Bolsonaro, qui a toujours défendu que l'Amazonie soit une région plus productive et moins préservée. Il a décidé d'affaiblir les institutions environnementales en réduisant par exemple le nombre des personnes qui travaillent à la surveillance de l'Amazonie et qui empêchaient la déforestation à outrance et sanctionnaient des crimes environnementaux. Donc il a limogé aussi un dirigeant d'une institution chargée de contrôler la déforestation par satellite parce que cette institution a divulgué des chiffres qui étaient alarmants.
Oui, l'INPE, c'est un peu l'équivalent de la NASA brésilienne. Donc on regarde par satellite la situation de la forêt et le chef de l'INPE a dit l'augmentation de la déforestation par rapport à l'an dernier, elle est absolument énorme et ça n'a pas plu à Bolsonaro.
Absolument pas. D'ailleurs, l'augmentation était au mois de juillet de 278%, donc ce qui est aberrant. Donc tout ça a encouragé certains grands propriétaires fermiers à envahir et à mettre du feu et à envahir certaines terres. D'ailleurs, il y a eu même un jour qui s'appelle le jour du feu, le dernier 10 août, où plusieurs fermiers se sont concertés par WhatsApp et ils ont incendié plusieurs terres pour les occuper illégalement. Ça, ils sont en train encore de faire une enquête pour voir comment ça a été organisé, cette invasion et ces incendies.
Oui, évidemment, ça pose la question de la réponse des autorités. Ernest, nous vous écoutons sur ce sujet.
Oui, et alors, quelles sont les actions mises en place par le gouvernement du président Bolsonaro pour lutter contre ces incendies?
Alors, Bolsonaro, co-responsable, on peut dire, de ce déboisement un petit peu, qu'est-ce qu'il fait pour réparer la situation, circonscrire les incendies?
Comme j'ai dit, Bolsonaro a encouragé, parce qu'il a toujours considéré que l'Amazonie devait être une zone productive, économique, que les Indiens doivent être complètement intégrés à la société. Vous avez vu, en ce qui concerne Bolsonaro, il y a une pression. Président Macron a dit qu'il pouvait quand même ne pas ratifier l'accord Union européenne-Mercosur, ce qui a fait que Bolsonaro, pendant ce week-end, il a fait un petit effort, il a envoyé quand même des avions bombardiers d'eau, et l'armée elle est sur la région et aujourd'hui, il réunit les gouverneurs de la région amazonienne. Mais, comme vous avez peut-être vu, aujourd'hui, la communauté internationale, elle a proposé une aide de 20 millions pendant le G7 pour les combats des incendies. Et cette nuit, les gouvernements brésiliens a annoncé qu'il va rejeter l'aide proposé. Donc la situation est une grande escalade des tensions. Le gouvernement brésilien a même déclaré, le chef du cabinet de Bolsonaro a même dit que ces moyens seraient peut-être plus pertinents pour la réforestation de l'Europe, tout en priant le président français de s'occuper de ses colonies. Vous voyez,
la phase d'armes n'est pas terminée.
Pas du tout, et pendant ce temps-là, le feu continue à ravager la forêt amazonienne.
Merci Maria Amélia Lancard d'être venue répondre aux questions d'Ernest, notre auditeur de Paris. On rappelle que donc cette proposition d'aide internationale a donc été rejetée par le Brésil, alors que d'autres pays riverains du Brésil, eux, l'ont acceptée, notamment, je crois, la Bolivie dernièrement. Merci en tout cas à Ernest pour ces questions. Merci à tous pour votre fidélité. Si vous avez des questions sur l'actualité, n'hésitez pas sur la page Facebook de l'émission. Vous nous envoyez vos questions par Messenger et également par WhatsApp. On se retrouve dans 10 minutes maintenant pour le débat. On revient sur la formation du gouvernement en RDC avec vos commentaires sur cette situation.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.